Nous avons choisi pour thématique l'édition du poème. Et pour faire des comparaisons avec d'autres pays existants, nous avons pensé à la Suisse. Donc la Suisse est plutôt autour des revues d'une façon générale, mais peut-être que ça va s'étendre au-delà des revues à l'édition aussi de la poésie. Donc je vais laisser la parole à André Chabin et Marie Frisson qui vont diriger cette rencontre. C'est à vous.
Merci Vincent. Doublement merci Vincent d'abord pour cette introduction et puis pour nous accueillir. J'associe à ces remerciements bien sûr Yves Boudier qui chaque année réserve un espace de parole aux revues qui en ont bien besoin parce que souvent elles sont ignorées des facteurs pour reprendre un très beau titre d'un livre de Mathieu Bénezet auquel va ma pensée constamment. Je voudrais dédier rapidement cette petite séance à un éditeur qui vient de nous... Excusez-moi, je suis ému. Qui vient de disparaître, Jean Richard, des éditions d'en bas, apparemment, est mort hier. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous présenter les quatre revues qui sont ici, ainsi que ma partenaire. Je commence par la gauche. Je ne sais pas si je saurais aller à droite, mais je vais essayer. D'abord, il y aura Mathieu Corpato qui co-dirige la revue L'Épître, dont nous parlerons tout à l'heure. Cette revue est née, je crois, en 2013. Ensuite, il sera à ses côtés. Il y a Claudine Guedzi, qui s'occupe de la partie francophone, on reparlera de cette revue Monstre tout à l'heure, qui s'occupe de la partie francophone donc de la revue Vice Versa Littérature, qui elle existe je crois depuis 2007, et Claudine Guedzi est par ailleurs poète, d'ailleurs on la retrouve dans la troisième revue que je vais vous présenter, qui est la revue de belles lettres, ici représentée par un directeur récent, mais membre ancien, déjà quasi vénérable, comme la revue, puisque la revue est née en 1836, donc la revue de belles lettres, David André. À mon extrême droite, ça ne m'étonne pas, Hervé Laurent, qui lui a créé, il dirige la petite revue L'Ours Blanc, dont voici... les deux derniers numéros, puisque elle existe toujours par deux. Donc, je crois qu'elle a été créée en 2014.
Pareil, ça fait 10 ans, 2014. Oui,
2014. Bon. Et enfin, Marie Frisson, qui ne veut pas être présentée, puisque tout le monde la connaît, bien évidemment. Marie Frisson, qui est à mes côtés, m'accompagnera pendant cette petite heure. Elle est tout à fait légitime à être là puisque c'est elle qui a eu l'idée de cette rencontre après avoir, donc Marie est une spécialiste des formes poétiques, elle connaît très bien la poésie contemporaine dont elle est même spécialiste, on va dire universitaire ou débutante, et elle a initié, créé, porté une rencontre absolument, enfin, des rencontres absolument formidables qui s'appelait Panoramage, qui se sont déroulés à la fin du mois de mars, à la fois à la fac, dans plein d'endroits, à la Maison de la Poésie, à l'ambassade de Suisse. Donc c'est une femme extrêmement introduite. Donc peut-être avant de parler des revues elles-mêmes, j'aimerais bien, Marie, que tu nous dises pourquoi tu as souhaité faire comme une sorte de réplique à tes journées autour de la poésie suisse, par cette rencontre autour des revues suisses et peut-être pourquoi tu as fait ce choix de revues qui sont d'une diversité extrême, peut-on dire.
Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, l'idée qui est venue dans la continuité du colloque, c'était de représenter cette diversité, cette variété. Le colloque justement voulait montrer, attirer l'attention du public français sur la diversité et la grande créativité de la poésie en Suisse. depuis de longues dates, mais aussi du renouveau avec de nouvelles générations d'artistes qui, par ailleurs, eux-mêmes créent des revues, puisque nous avons invité Mathieu. Et donc, c'était pertinent déjà de peut-être de montrer cette diversité aussi à travers de la diversité de l'édition. Et on avait commencé à amorcer cette question pendant le colloque, mais évidemment, comme on avait trois jours... et quatre avec la Cité internationale de la langue française de colloque, on ne pouvait pas traiter tous les sujets, donc on a une après-midi dédiée à l'édition, et on a préféré parler de différentes choses, mais on était, pour des raisons de temps et de choix, obligés de restreindre le champ. Et comme l'édition du poème est le thème des états généraux du marché de la poésie, on a proposé de choisir de ce panel qui tient à montrer la diversité à la fois des écritures mais aussi des revues qui les portent, donc à travers des revues aussi différentes, alors anciennes historiquement comme la RBL qui date du 19e siècle et qui a une longue histoire derrière elle, à des revues plus récentes comme l'Épître de Mathieu et aussi Vice Versa pour le plurilinguisme et L'Ours Blanc aussi pour le défrichage du chant contemporain, puisqu'il y a beaucoup de poésie expérimentale présentée dans L'Ours Blanc, et ça en fait une revue également, comme les trois autres passionnantes. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire.
Brève et claire, c'est parfait. Donc on va maintenant parler un petit peu du corps des revues qui sont là. Avant, je voudrais, comme un petit souvenir à la fois attendri, amical, nommer trois revues que j'ai... infiniment aimé, la revue Voix, ce qui me permet de faire une bise lointaine mais sincère à Pascal Antonietti, la revue Coltard, qui était une magnifique revue numérique, et enfin la revue, ça nous ramène à Jean Richard, la revue Hétérographe, qui a été aussi un moment de bonheur éditorial. Donc, on va commencer par toi, Mathieu, bien que tu sois en short. Et je ne sais pas si il est loisible de parler quand on est en short, mais on va bon. Allons-y.
Je l'enlève alors.
Donc, dis-nous ce qu'est l'Épître. D'abord, ce qui m'a surpris, je dois dire, je ne connaissais pas la revue avant il y a quelques semaines, c'est le titre. Le titre m'a paru tout à fait surprenant pour une revue qui se veut une revue de jeunes. Le titre me paraissait tellement ancien, gothique, quasi religieux. Alors, est-ce qu'il y a une religion de la jeunesse dans l'Épître ?
Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu, malgré la chaleur, même si elle est moins forte que hier. Effectivement, l'Épître, elle est une revue que j'avais créée quand j'avais 19 ans. Et parfois, on fait des choses quand on a 19 ans qu'on regrette. L'Épître est un peu le nom que je regrette de la revue, même si je suis très fier de ce projet et de tout ce qu'il a réussi à faire, de tout ce qu'il a réussi à monter. Mais l'idée de l'Épître, c'était vraiment de créer un espace d'expérimentation pour de la littérature courte et notamment pour les plumes émergentes. Et en cherchant un peu des idées de noms, je suis tombé sur l'idée d'une épître, genre littéraire du 17-18e siècle, qui veut simplement dire texte court, bien sûr très loin du genre religieux. Et en fait, 19 ans, assez immature, je me suis dit, faisons l'épître, comme ça ce sera pour désacraliser un peu l'espace de la revue littéraire. On a réfléchi plusieurs fois à changer le nom, mais finalement, on l'aime bien et puis on l'assume et il fonctionne
mais
bien.
Mais tu avais déjà du poil sur les cuisses à 19 ans ?
Je plaisante. C'est un thème de la journée, les poils sur mes cuisses. Non, en fait, ce qui est vraiment très particulier avec l'Épître, et c'est ça qui me semble important de mentionner en premier, c'est qu'en fait, l'Épître est vraiment une revue destinée à la relève littéraire. Notre grande particularité à nous, c'est qu'on fait un retour critique à 100% des textes qu'on reçoit, y compris les refusés. Et en fait, on reçoit des centaines, des milliers de textes par année, et tous les textes sont lus, sont commentés par au moins 4 personnes, et on envoie des synthèses à tous les textes qu'on reçoit, des commentaires de ces 4 personnes. Donc ça, c'est la grande particularité de l'Épître, qui se veut un laboratoire, mais aussi un tremplin, pour justement les plumes émergentes.
Merci. On y reviendra. Claudine, alors là, vous allez nous présenter, ça va être cruel comme exercice de présenter en, en quelques mots cette revue monstre. C'est une revue à trois têtes, à trois corps. Donc dites-nous en plus sur ce qu'elle est.
Alors, vous m'entendez ?
Non.
Vous m'entendez ? Alors, bonjour à tous. Les trois corps, en fait, c'est une revue qui a la particularité d'être éditée dans les trois langues nationales de la Suisse, c'est-à-dire français, allemand, italien, qui comprend aussi dans chaque numéro un texte en romanche traduit de nouveau pour les numéros en français, allemand, italien. Je dirais que la spécificité, c'est de mettre l'accent sur la traduction et la circulation des textes à l'intérieur de la Suisse, mais si possible au-delà aussi, hors de la Suisse. On cherche à publier des plumes émergentes et des auteurs, je ne sais pas comment les dire, confirmés ou ayant une œuvre plus importante, c'est-à-dire de croiser les deux. On n'est pas spécifiquement dédié à la poésie, mais on lui donne toujours une grande place dans chaque numéro.
Très bien. Et vous avez fait court pour une revue qui a déjà une longue histoire et puis une ambition. C'est vraiment une merveille, je précise. D'ailleurs, je voudrais montrer la dernière couverture, effectivement, qui est très belle et qui est aussi tout à fait emblématique de ce qu'est une revue. En fait, c'est une fenêtre ouverte sur le monde avec un rideau qui s'ouvre, qui s'entr'ouvre. Alors le rideau, est-ce que c'est la traduction ? Est-ce que ce n'est pas la traduction ? C'est très beau. C'est donc il y a un petit portfolio de cette artiste.
Oui, ce que je peux ajouter, c'est qu'en fait, chaque numéro a une thématique. Et comme on a publié dans trois maisons d'édition différentes, on a à chaque fois une couverture différente, c'est-à-dire la troisième main en italien et en allemand. Les éditeurs ont une liberté aussi de choix dans la mise en page. Et voilà.
Donc David, écoute, tu vas nous faire l'histoire de la revue de Bellette. C'est très court, donc dis-nous de quoi est faite cette revue. C'est compliqué avec une telle densité, une telle histoire, mais dis-nous en gros ce qu'on y trouve et de quoi elle est faite.
Oui, bonjour à tous, merci beaucoup aussi d'être là. C'est vrai qu'on se connaît tous, puisqu'on a déjà eu l'occasion de se retrouver dans cette configuration dans d'autres lieux. Et quand on préparait la rencontre, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va apprendre les uns sur les autres ? Mais j'apprends que toi, Mathieu, tu as fondé l'épître quand tu étais adolescent. Et la revue de Belles Lettres, comme André l'a dit, a été fondée au 19e siècle par des adolescents, qui étaient des lycéens encore à l'époque. Donc cette revue est le rejeton d'adolescents. Ça fait bientôt 200 ans que les premiers adolescents ont fait cette revue. Donc je souhaite aussi une aussi longue vie à l'épître. Alors la revue de Belles Lettres a eu évidemment plusieurs vies en traversant les siècles. Mais il y a quelque chose qui est resté, si je peux la présenter très brièvement. Et qui nous vient, alors non pas des pères fondateurs, mais des adolescents fondateurs. Qui est, et c'était cité dans l'introduction du premier numéro, l'ambition, mais sans prétention, de susciter le goût et la disposition pour la littérature. Et je crois que c'est une ambition, mais que je pense que les autres revues partagent. C'est quelque chose qu'on a conservé, c'est-à-dire essayer de susciter, peut-être pas le goût littéraire, mais essayer de transmettre notre goût littéraire. D'une part, et puis dès le premier numéro, parce qu'on a évoqué la Suisse et la traduction, il y avait déjà des traductions alors d'auteurs classiques, Shakespeare, Sénèque, donc c'était pas encore des traductions d'autres langues nationales, mais cette envie de traduire et de transmettre était déjà là. Alors la revue de Belles Lettres, comme j'ai dit, a une longue histoire. Si j'en reste à sa période contemporaine, c'est une revue qui publie un ou deux dossiers qui sont consacrés soit à un écrivain, soit à plusieurs écrivains qui appartiennent à une langue. Ça peut être la Grèce, ça peut être les Canaries, par exemple. Et puis chaque numéro est accompagné d'un dossier. Donc c'est une revue de création, il y a peu de, ou presque pas de critiques. Chaque numéro est accompagné d'un cahier de création avec des poèmes inédits, qu'ils soient en français ou en traduction. Et puis nous avons également trois rubriques. Une rubrique qui est consacrée à la traduction, qui s'appelle la rubrique Tradoukeré. Une rubrique qui est une forme de chronique qui fonctionne sur le mode du feuilleton, où on invite un écrivain à écrire un texte qui s'étale sur plusieurs numéros. Et puis également une rubrique qui s'intitule Tracé, qu'on confie à un écrivain et une écrivaine pour nous parler d'un autre écrivain ou d'autres écrivains aux écrivaines.
D'accord. Quand on est une revue à la fois comme ça prestigieuse, je ne sais pas si son aura est équivalent à sa diffusion réelle, est-ce qu'il n'y a pas le risque à un moment donné d'apparaître un peu comme une revue académique ? D'académie, j'allais dire, moins qu'académique, mais tu vois, un peu une revue institutionnelle.
Alors ça, je ne sais pas quelles sont la perception de nos lecteurs. Évidemment, en tout cas, une revue qui est présente depuis longtemps, donc un petit peu, elle est peut-être devenue une petite institution, mais enfin, il faut vraiment se méfier des apparences, parce que c'est quelque chose, c'est une entreprise fragile qui a effectivement connu plusieurs vies aussi, différentes expériences, mais je pense qu'elle est plutôt considérée comme une revue, disons. Ancrée et vibrante, et puis qui sait quand même se renouveler.
Je peux rajouter quelque chose. Ça me fait penser ta question à cette histoire dont parlait Roland Barthes du vaisseau Argo, qui est ce vaisseau qui a circulé sur les mers de l'Antiquité pendant des années et dont on changeait au fur et à mesure les pièces. Et au fond, il s'appelait toujours Argo, mais à un moment donné, plus aucune des pièces d'origine n'était sur le bateau. Et je crois qu'une revue au long cours comme l'est la revue de Belles Lettres, c'est une revue qui s'est réinventée aussi. Donc il y a toujours le label, mais elle continue, et je pense qu'elle serait académique si elle continuait à publier ou à republier, ou qu'elle se replie sur son histoire, ce qui n'est pas le cas, me semble-t-il. Enfin, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que tu en penses.
Ça me paraît tout à fait vrai. Ben, écoute, puisque tu as la parole, garde-la.
J'espérais que tu allais m'oublier, je suis à droite, donc
tu regardes pas à droite. Mais... tranchante par ses choix éditoriaux, par ses choix poétiques, c'est L'Ours Blanc, donc décris-nous un peu son ambition, puisqu'elle se veut une revue du dérangement, donc si on te dérange, tu nous le dis tout de suite et on arrête.
Non, alors pas du tout une revue du dérangement. Et quand la revue a 10 ans maintenant, elle a été créée à Genève et elle a été à l'initiative de l'éditeur qui nous héberge toujours, qui est Alain Berset, qui dirige les éditions Aérolimite. Et Alain Berset avait envie de trouver une formule qui lui permettait de publier des textes plus vite et de manière beaucoup plus légère qu'on ne le fait quand on fabrique un livre. Et c'est là qu'il m'a demandé, au fond, de réfléchir à un projet qui serait celui d'une revue. Et donc, L'Ours Blanc est hébergé par Aérolimite, mais c'est un peu une espèce d'extension, comme ça, autonome. Et la question qui s'est posée, justement, c'était, non pas de déranger, mais de se dire, quel sens cela a-t-il aujourd'hui dans une offre éditoriale qui nous paraissait quand même très riche et déjà bien constituée, relativement à l'édition de la littérature, mais aussi de la poésie, ou singulièrement de la poésie, de faire une revue de plus. Et donc nous avions envie d'essayer de faire quelque chose d'un peu différent de ce qui se faisait jusque-là, ou de complémentaire. Et c'est pourquoi nous avons adopté ce format qui est un peu singulier. Tu as dit tout à l'heure, à juste titre, c'est une petite revue, c'est-à-dire c'est un petit exemplaire agrafé qui coûte pas cher, du coup. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on refait une revue à sommaire ? Non. Donc l'idée a été, dès le départ, de publier un auteur ou une autrice, et une seule, pour permettre d'avoir des textes un peu plus longs que ceux qu'on publie d'ordinaire dans les revues à sommaire, justement, et donc d'aller chercher des textes qui sont à la fois peut-être trop courts pour faire des livres, mais trop longs pour être publiés par ailleurs dans des revues à sommaire. Voilà, c'était ça l'idée. Et du coup, c'est vrai aussi que ces textes-là, non seulement par leur taille, mais aussi par leur inscription générique, sont des textes souvent très singuliers. Donc l'idée pour nous a toujours été de défendre plutôt une littérature de recherche. Tu parlais d'avant-garde tout à l'heure, je ne sais pas si j'oserais encore employer ce terme aujourd'hui, mais en tout cas, défricher des territoires qui jusque-là ne l'étaient pas. Voilà, je pense que c'est...
Mais cette idée du défrichage, c'est vrai que les textes sont, disons, parfois expérimentaux, les textes de l'Ours Blanc, avec un protocole éditorial qui est tout à fait original. Mais cet aspect de défrichage, je crois qu'il vaut pour au moins deux autres, peut-être même trois autres revues qui sont là. Est-ce que c'est aussi un peu votre but? D'abord, est-ce que la scène, là je vais m'en tenir à la Suisse, mais ça m'agacerait que vous soyez rabattu simplement sur votre territoire géographique, puisque vous faites des revues en Suisse, même la revue de Belles-Lettres, je crois, dans cette courte présentation sur Internet, dit qu'elle est ancrée en Suisse, ce n'est pas pour autant une revue suisse, enfin exclusivement suisse. Donc, non, mais c'est important de le rappeler, on ne fait pas du localisme, bien qu'il puisse être à la mode ici ou là. Donc, ce goût du défrichage, de la recherche, vous aussi, vous publiez des textes extrêmement, qui alternent d'ailleurs poésie, récit, même une fausse pièce de théâtre dans un dernier. Est-ce que tu dirais aussi que vous allez aussi du côté de la recherche, justement, de la découverte de nouvelles écritures, mais aussi d'écritures nouvelles?
Oui, complètement. C'est exactement ça le but de l'épître, c'est de donner de l'espace aussi à des écritures nouvelles, différentes, étonnantes, surprenantes. Là encore, il y a vraiment l'idée de proposer l'épître comme un laboratoire. Peut-être il faut dire aussi que l'épître en fait est double. Il y a une plateforme numérique qui va publier chaque semaine des textes. Et puis là, vraiment, c'est l'expérimentation la plus totale. C'est les premiers essais des auteurs et des autrices. Et puis après, il y a le livre papier qui vient être l'étape d'après, comme une sorte de tremplin vers la professionnalisation, peu importe ce que ça veut dire. Et manifestement, l'épître réussit au moins en partie son travail, puisque nombre d'auteurs, maintenant que ça fait plus de 10 ans qu'on existe, ont commencé dans les pages de l'épître et sont devenus des écrivains, des écrivaines reconnus, qui ont gagné des prix. Je pense à Fanny Desarzan avec le prix suisse de littérature, à Edwige aussi, mais même ici au marché de la poésie, Rémy Le Tourneur qui vient de publier son premier recueil aux éditions Chênes, on l'a publié dans l'épître avant cela. Il y en a eu d'autres, Dorsen par exemple, 4 catastrophes aux éditions Vroom a commencé dans l'épître. Donc il y a vraiment comme ça une sorte d'ambition de porter plus loin, ça c'est une évidence. Et puis comme je viens de citer Rémy Le Tourneur et Dorsen, ça me permet justement de témoigner que l'épître certes est basé en Suisse, basé à Fribourg, mais en réalité essaye de vivre bien au-delà. C'est à la fois la beauté et la limite du numérique, mais nous on a des auteurs et des autrices du Québec, de Belgique, d'Afrique francophone, de France, d'un peu partout dans le monde, même de Shanghai. Enfin, ça arrive qu'on reçoive des textes de francophones qui vivent ailleurs, et puis en fait ça c'est une particularité possible dans l'épître, c'est clair. Dernière chose peut-être, si je peux me permettre, l'épître développe aussi depuis 4-5 ans maintenant un énorme programme de performances et d'événements, et là par contre c'est clair qu'on est beaucoup plus actif en Suisse romande, mais en fait aussi en France, en Belgique, et on monte de plus en plus des projets, des lectures, performances, résidences, expositions, etc., au-delà de notre petit territoire.
Très bien. Bien, Claudine, même question à vous, d'ailleurs, qui débouchera sur une question générale, sur le goût de la découverte ou la découverte d'auteurs nouveaux. Est-ce que c'est aussi une des missions de Vice Versa Littérature?
Oui, absolument.
Décidément, vous avez...
Là, on m'entend, voilà. Alors, absolument, on a toujours un cahier qui s'appelle Inédit, qui est dédié aux plumes émergentes, qui sont des personnes qui ont publié un ou deux recueils. Par contre, nous, on est spécifiquement suisse. Dans les différentes éditions, il y a toujours ce mot suisse qui revient avec des auteurs suisses. Bon, après, auteur suisse, c'est toujours une discussion de savoir si on est... Enfin, ça peut être originaire de Suisse, ayant un lien avec la Suisse, étant né en Suisse mais vivant ailleurs. Donc, c'est, voilà, ça peut s'élargir. Et puis, on a toujours des rubriques aussi. Enfin, on a une rubrique qui s'appelle « D'un ailleurs » qui est destinée soit à un ailleurs géographique. On a eu des textes ukrainiens, par exemple, ou un ailleurs temporel. Des fois, on a des recherches dans les archives pour... faire ressurgir des personnes qui sont méconnues, mais j'ai perdu la question.
Ben, non, mais le goût d'aller voir se crée, ce qui se passe du côté des émergents.
Des émergents, absolument. Et puis l'idée de les faire découvrir aussi les uns les autres à l'intérieur de la Suisse, dans le sens où les alémaniques ne connaissent pas forcément les francophones et les italophones, et de faire cette circulation en fait à l'interne, en espérant qu'elle débouche plus loin.
Est-ce que ça marche, ça, cette communication? Est-ce qu'il y a, c'est vrai qu'on en parlait, puisque c'est une question un peu lancinante, une porosité, une porosité linguistique, c'est difficile, mais on pourrait presque dire confraternelle ou de la création entre les différentes langues, ou est-ce que chacun est dans son couloir de nage? Je pense à ce que Marion écrit dans l'introduction d'un bouquin qui doit être épuisé, mais qui est vraiment une chose extraordinaire, je vous le conseille. Ça s'appelle « L'écrivain et son traducteur ». Elle se dit que ce sont des langues en fait, qui s'ignorent. Donc ce que vous faites est admirable, mais est-ce que ça ne s'effrite pas contre un mur impossible?
C'est en tout cas un idéal auquel on tient, ça c'est sûr. Et puis en Suisse, il y a quand même plusieurs festivals littéraires et festivals de traduction qui sont plurilingues et qui jouent sur ces échanges.
Oui, d'accord. Peut-être moins, vous êtes peut-être moins sensible, vous, à l'aspect de découverte d'auteurs. Enfin, si, vous le faites aussi?
Alors, on le fait, mais pas systématiquement. C'est vrai, mais en 2017, on a consacré un numéro qui s'appelait Voix Nouvelle. On a publié des voix qu'on dit émergentes, certains n'avaient jamais publié d'ailleurs, ou très peu. Dans chacun de nos sommaires, il y a quand même des jeunes poètes. On m'entend pas? On m'entend très mal. Ça va? Il y a des jeunes poètes, mais aussi un peu comme avec Vice Versa, on publie aussi beaucoup d'auteurs, on traduit beaucoup d'auteurs. Que ce soit des Tessinois, que ce soit des Alémaniques aussi, qui sont pas connus encore en français, et même en Suisse romande, ou très peu. Et ensuite, ils peuvent traverser, évidemment, modestement la frontière, et venir jusqu'au marché de la poésie, ici à Paris, et dans d'autres lieux où on présente la revue, et aussi dans les librairies dans lesquelles on est diffusé.
Mais justement, l'exemple là, dans le dernier numéro, c'est un nom comme beaucoup de vos revues. Hein, je dois dire, en toute modestie, je découvre à peu près 98% des auteurs. Ça veut donc dire que le travail de revue, d'ailleurs, est formidable pour ça. Hein, c'est une sorte de fourmillement de voix qui nous sont inconnues. Et ça, c'est formidable. Par exemple, dans le dernier numéro, vous publiez quelqu'un qui s'appelle Anna Maria Bacher. Qui est d'une... je ne sais pas, c'est un dialecte ou pas?
Oui, du Haut-Piémont. C'est du Titch.
Du Titch, que je résiste à l'envie de vous lire un poème, parce que je trouve ça très, très, très beau. Et il faut vraiment qu'il y ait une revue qui ait l'idée d'aller chercher au fin fond de je ne sais quelle archive, parce que j'ai l'impression que même dans sa langue, elle a été peu publiée. Je trouve ça, c'est admirable comme démarche. Voilà.
Oui, il y a aussi une rencontre avec un traducteur, hein, Samuel Bruxelles, qui l'explique. Donc c'est aussi ça, hein, les revues, c'est des rencontres. C'est des traducteurs qui nous proposent effectivement des poèmes, Anna Maria Bacher, qui sont peu publiés ou pas publiés. Et on est heureux de pouvoir s'en faire l'écho. Surtout qu'en plus, là, c'est des très beaux poèmes, avec une langue qui est effectivement complètement inconnue.
Tu pourrais nous en lire, peut-être ?
Non, je plaisante. Bah, en tout cas, pas en teach. Alors, on publie toujours, en plus, en bilingue, donc vous pouvez découvrir cette langue. Mais c'est ça aussi le propre des revues, hein, c'est de permettre des rencontres étonnantes. Et on a cette grande liberté, nous les revuistes, je crois, et c'est une force.
Bah écoutez, je vais quand même lire 4 vers de cette poétesse. Parce que, voilà. Au premier jour de juin, j'aime ne rien faire. Je suis assise sur un banc devant la porte de ma maison, une tasse de café dans les mains. Je ne pense même pas, j'observe simplement les petites marguerites et j'écoute le chien aboyer, personne ne m'appelle, la mouche ne m'ennuie pas et le chat sommeille sur mes pieds. Quelle paix ici à Brando pendant que pousse l'herbe. Alors, je trouve qu'on a envie d'être avec elle là en ce moment, avec cette chaleur, on a envie de ne rien faire en sa compagnie. Non, c'est pour vous dire la qualité de cette poétesse, de moi inconnue, et comme j'imagine de la plupart d'entre nous, donc c'est quand même un boulot admirable des revues, c'est pour ça qu'il faut aller quand même fureter dans les revues. Mais je vais rebondir sur ce que tu disais, Mathieu, sur le fait que finalement, être publié dans l'épître, c'est aussi une voie vers le monde de l'édition. De manière générale, je vais vous demander quels sont vos rapports avec le monde de l'édition, précisément. Est-ce que vous avez le sentiment que le travail que vous faites se traduit pour les auteurs par une porte vers le monde de la, entre guillemets, grande édition, même si elle est petite, comme chacun sait. Hervé.
Oui, ben moi je pense que c'est évident. Il y a vraiment, enfin, Mathieu parlait de cette génération de gens qui sont passés par l'épître et on pourrait dire pour l'Ours Blanc aussi qu'il y a toute une génération d'auteurs suisses qui ont, sinon commencé, mais qui ont, aux prémices de leur travail, qui ont fait des numéros dans l'Ours Blanc. Jérémy Jeanne, Carla Demière qui est publié chez Corti maintenant, Gindre c'est chez Zoé. Enfin, il y en a plein comme ça. Et je pense que c'est le rôle des revues. Enfin, tu en sais quelque chose, hein, puisque tu travailles activement à ça, mais. Elles sont là aussi parce que justement elles permettent des projets éditoriaux un peu plus légers pour donner leur chance et pour faire découvrir et pour mettre le pied à l'étrier à des jeunes auteurs. Donc je pense que oui, ça c'est le but des revues et c'est intéressant pour ça de faire une revue. Sinon, si on faisait de la petite édition et qu'on ramasse les miettes de ceux qui existent par ailleurs, ce serait pas intéressant. Et alors nous à l'Ours Blanc par exemple aussi, quand on travaille avec des auteurs confirmés, ce qui nous arrive aussi, on leur demande un projet spécifique qui est un projet pour l'Ours Blanc. Et par exemple, Marie de Quatre-Barbes, qui par ailleurs est publiée chez POL et directrice de maison d'édition, elle avait fait un projet spécifique pour l'Ours Blanc, après qu'on en ait discuté ensemble, et c'est pareil pour David Lespiot, et c'est pareil pour des gens comme ça. Donc voilà, je pense que les revues, il faut qu'elles réfléchissent et qu'elles pensent aussi en permanence leur relation à l'édition, de manière décomplexée, mais créative aussi.
Claudine.
On m'entend, oui. Moi, je voulais dire aussi, en tant qu'autrice, j'apprécie énormément l'espace des revues parce que ça permet de mener un projet court qui n'a pas du tout le même développement qu'un recueil entier, par exemple. Et ça permet de le mettre à l'épreuve du regard du lecteur, de la lectrice.
Marie, tu veux enchaîner quelque chose ou c'est la poésie d'Anna Maria Blacher qui t'a rendue rêveuse?
Non, j'écoute attentivement. Je poursuis ce questionnement. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure avant l'entretien. C'était aussi votre regard sur le prolongement de votre lectorat, c'est-à-dire en Suisse et puis en France, et la réciprocité. Alors, pour parler de la RBL, on a eu une intervention lors du colloque de Stéphane Peterman qui a retracé l'histoire de la revue et qui a montré ses multiples métamorphoses. Alors, il y a des grandes périodes dans la RBL, notamment celle où il y avait des liens d'amitié entre des poètes français et suisses, des Français qui étaient à la revue, la NRF de Gallimard. Et donc, il y avait ce dialogue entre la frontière. Puis, une évolution. C'est vrai qu'avec la direction par Marion Graff, il y a eu un développement du travail de la traduction et donc aussi une ouverture à l'international. Donc il y a à chaque fois des périodes comme ça avec des... Mais on constate aussi une évolution de la diffusion de la littérature suisse fluctuante selon les périodes. Et je voulais savoir voilà, comment vous percevez cette diffusion, c'est-à-dire en Suisse et puis ensuite au-delà des frontières. Peut-être qu'on peut commencer par justement la RBL et puis revenir.
Oui, alors la RBL a été diffusée assez longtemps en France par Les Belles Lettres, notre homonyme, jusqu'à l'incendie de 99, je crois. Et ensuite, sa présence en France a été, je pense, pendant une dizaine d'années très discrète, pour ne pas dire quasi inexistante. Et elle a repris depuis une quinzaine d'années. Et puis là, récemment, on est, grâce à un partenariat avec un éditeur, les éditions de La Baconnière, qui sont à Genève, on est à nouveau diffusé en France. Enfin, une diffusion professionnelle. Avant, c'était une diffusion plutôt maison.
Artisanale.
Plutôt artisanale, exactement. Et donc, on est quand même très heureux d'avoir cette diffusion en France. Moi, je constate que, ça fait 15 ans que je suis au comité, que la réception de la RBL, il y a une réception en tout cas très attentive en France. Des fois, je trouve même un peu plus qu'en Suisse, mais enfin, on n'est jamais prophète dans son pays. Mais je le vois aussi dans les rencontres qu'on peut faire ici, au marché de la poésie, aussi au marché de la poésie de Lille. On peut évoquer ce nouveau marché de la poésie où... en décembre dernier, j'ai fait de très très belles rencontres, même sur un temps très court. Des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai vu votre revue dans une librairie, donc ça c'est quand même les bienfaits de la diffusion. Je la vois ici, etc. » et des gens qui l'achètent. Donc c'est pour nous un grand appel d'air. Enfin, c'est très important de pouvoir être diffusé en France, mais aussi en Belgique. Et puis bon, mais c'est plus compliqué au Québec.
Oui, mais ça, c'est toujours plus compliqué, le problème de douane, d'exportation, etc.
C'est
Mathieu, selon toi, en revanche, la vraie diffusion, c'était plus par le portail que vous avez, ou c'est aussi important d'avoir quelques points d'ancrage dans le paysage des librairies en France?
Bon, c'est vrai que l'Épître, on essaie d'avoir une professionnalisation, le moins... reprochable possible, irréprochable si on tend vers ça. L'Épître est diffusé par les éditions Zoé en Suisse, mais n'est pas diffusé en France. On a des points de chute avec des partenaires qui accueillent certaines de nos revues, par exemple la librairie Chan qui accueille les numéros de l'Épître. Mais je vais prendre un peu le contre-pied et ce sera peut-être un point, un brin provocateur. Mais dans une certaine mesure, l'Épître n'en a pas grand-chose à faire du nombre de lecteurs et de lectrices. On s'intéresse assez peu à la réception, et au fond, nous, on s'intéresse vraiment avant tout aux auteurs et aux autrices. Est-ce que l'auteur, l'autrice qui a proposé un texte a vraiment proposé quelque chose de très fort? Est-ce que cette personne-là s'est améliorée dans son écriture et peut passer à l'étape d'après? Et s'il y a des lecteurs et des lectrices, ben, tant mieux, mais notre attention, elle est vraiment portée sur les auteurs et les autrices. Et si un texte est lu par une personne ou par 100 personnes ou par 1000 personnes, j'allais dire secondaire, c'est trop dur, mais c'est vraiment pas ça notre attention. Donc on s'intéresse vraiment plutôt au travail critique éditorial avant tout, et puis l'aspect de communication et de diffusion vient dans un deuxième temps.
Oui, c'est parfois un peu cruel, et les auteurs sont contents si tu leur dis on s'en fiche que t'es d'avoir vendu. Non, je plaisante.
Alors ils sont particulièrement contents parce qu'on leur offre un accompagnement critique qu'ils peuvent espérer quasiment nulle part ailleurs.
J'ai toujours ce problème de... Je sais pas pourquoi. Je confirme, moi j'ai été publiée aussi dans l'Épître, j'ai eu un retour, je crois, de 4 ou 5 lecteurs, ce que j'avais eu nulle part ailleurs, avec des conseils et des remarques allant dans divers sens, et parmi lesquels je pouvais choisir ce qui me convenait, sans pression, ce qui est, je pense, absolument exceptionnel dans le monde de l'édition. Et sinon, pour la diffusion, nous, on est diffusé aussi professionnellement. À part ça, je trouve que la place dans des revues en librairie est toujours problématique. Il y a peu de place. Il y a en général le dernier numéro qui est là, mais un peu perdu entre différents endroits. Donc ça, c'est ben peut-être quelque chose de... On s'en fiche des lectures, mais quand même, on aime, enfin, je sais pas, quand même, on aime bien en avoir. Et je trouve qu'on a peu de visibilité, en fait, en librairie.
Même en Suisse, vous n'avez pas tellement de... Est-ce qu'il y a un grand réseau de librairies accueillant à des choses très fragiles, un peu expérimentales, ou d'autres un peu moins expérimentales? Est-ce qu'il y a un réseau de librairies suffisant?
Mais
pas suffisant, jamais.
C'est aussi lié au fonctionnement systémique, socio-économique de la littérature, c'est qu'elle est souvent construite autour de l'incarnation d'une personne, et la revue étant par définition, la plupart du temps, peut-être à l'exception de L'Ours Blanc, mais collective, c'est beaucoup plus difficile. On le perçoit aussi, par exemple, dans la presse, on a beaucoup de difficultés à être visibilisé dans la presse, parce que justement, souvent, ça se base sur, par le prisme d'une seule personne, d'un auteur ou d'une autrice.
Même constat.
Oui, moi je dirais qu'on est beaucoup plus présent dans les librairies en France qu'en Suisse. Mais parce que rares sont les librairies qui consacrent un espace spécifique aux revues. Par exemple, à Genève, il y a les librairies du boulevard. Mais à part la librairie du boulevard, je ne vois pas d'autres librairies qui systématiquement font ce travail de recension des revues. Ça, c'est lié effectivement à des problèmes helvético-helvétiques. Et au prix du livre et au prix des choses, donc ça aussi,
tu
ça
sais,
compte.
En France, c'est pas non plus extrêmement brillant la place des revues en librairie. On pourrait sans doute citer 20 ou 30 librairies qui font un travail à peu près spécifique ou correct pour les revues, et autrement, basta. Mais en fait, ce que vous me dites me confirme, tout à part peut-être la revue Vice Versa Littérature, que vous êtes des revues faites en Suisse, mais vous n'êtes pas des revues Suisse, de cette manière. Vous avez vocation, comme toutes les revues, à être saut de frontières, vous passez sans passeport.
Alors,
c'est le cas de le dire.
Si je peux répondre, moi, pour L'Ours Blanc, c'était vraiment notre projet, c'était de défendre des jeunes auteurs et des jeunes autrices qui étaient romans et genevois même, et dès le départ, on s'est dit, mais on ne peut pas ne publier que ces auteurs-là. Il faut que leur travail entre en résonance avec le travail d'autres auteurs et d'autres autrices qui soient francophones, mais qui ne soient pas suisses. Donc, notamment beaucoup de Français, c'est vrai, mais d'autres aussi. Et donc, si tu veux, et c'est la raison pour laquelle on publie deux numéros à chaque fois aussi, on essaie toujours d'avoir un auteur ou une autrice suisse et un auteur ou une autrice francophone ou étranger en traduction, ce qui est le cas avec les deux derniers numéros qu'on vient de faire. Anna Jouy, donc, qui était fribourgeoise, et Cécile Sens, Natacha Muslera, qui sont à la fois poétesses et musiciennes françaises. Voilà.
Mais c'est vrai, là, tu parlais d'auteurs traduits. Moi, ce qui m'apparaît frappant dans le travail que vous faites, pas l'épître, évidemment, c'est le formidable travail de traduction que vous mettez en œuvre. Quoi. C'est extraordinaire. On a l'impression que c'est justement cette petite langue qui n'est pas assiégée, mais qui est très minoritaire, tout d'un coup accueille véritablement le monde entier. Elle a une capacité de traduction démultipliée si on le rapporte à sa population réelle. Et je trouve que c'est un boulot, mais vraiment admirable. Je pense à ce que faisait Marion, mais qui va continuer. Je pense au numéro d'Anub, qui était une splendeur absolue, ou les voix ukrainiennes, ou les suites italiennes. Ce travail, mais absolument fabuleux, pour ne rien dire de vice-versa littérature. D'ailleurs, je me dis, mais quand on, par exemple, hein, sur cet auteur que je découvrais, mais qui a une grande place, un dossier... Il y a toujours un dossier écrivain et écrivaine. Vous êtes très sensible à l'écriture inclusive, hein, j'ai remarqué tous. Parce que même quand on s'est salué, c'était cher ami et cher ami eux. Moi, grossier comme un Français, j'ai mis chers amis. Ce boulot que vous faites là, je pense à cet écrivain qui s'appelle Michel Layaz, qui a manifestement une œuvre importante, abondante, mais je ne sais pas si elle est arrivée jusqu'à nous. En tout cas, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, je me dis, mais c'est admirable ce boulot-là. Et je ne sais même pas s'il est traduit ni en allemand, ni en italien. Donc, en fait, faire ce travail, ce protocole éditorial autour de noms qui sont sans doute tout à fait admirables, mais est-ce que ce n'est pas l'être vaine, dit-il cruellement.
Est-ce que ce n'est pas, je sais pas comment...
Vain, finalement, 20... comme effort ou...
Ben, j'espère que non. Moi, je sais qu'il y a des maisons d'édition qui ont découvert des auteurs d'autres régions linguistiques ou qui ont découvert des traducteurs et que ça les a incités à s'intéresser à une œuvre. Ça arrive pas très souvent, c'est arrivé, et puis on ne le sait pas toujours, mais quand ça arrive, on est vraiment très très content de ça.
Mais pour tout ce travail de traduction, cela dit, vous recevez des subventions parce que ça coûte cher de traduire, même si les traducteurs sont généralement mal payé. Alors, je ne sais pas qui reçoit les sous, d'ailleurs. Est-ce que c'est la maison d'édition, ou est-ce que c'est le traducteur, ou est-ce que c'est les deux? Parce que c'est vrai que c'est bien la seule chose qui est payée, généralement, quelque part. C'est la traduction dans les revues. David.
Alors, c'est les traducteurs. On ne détourne pas encore l'argent qui nous est versé pour le paiement des traducteurs. Oui, c'est les traducteurs qui sont payés, et puis ils restent propriétaires des droits de leur traduction, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait les publier ensuite chez un éditeur. On ne demande pas du tout de royalties. Et effectivement, on touche des subventions, vice-versa, entre nous tous.
Oui, c'est un système de financement en Suisse qui est vraiment particulier. Peut-être que, je ne sais pas, on peut mentionner Pro Helvetia, qui a fait beaucoup pour...
En fait, le système, il se joue à deux niveaux parce que la plupart des subventions, en fait, sont par répartition cantonale. Et donc, il y a une différence entre le canton de Fribourg et le canton de Genève, par exemple. C'est pas les mêmes montants, pas les mêmes financements, pas les mêmes outils de soutien, etc.
Parfois, il y a les villes aussi.
Et puis les villes, mais là encore, ça tout est très éclaté et disparate, très hétérogène. Mais Pro Helvetia agit avec deux missions principales. C'est les échanges entre les régions linguistiques en Suisse et le rayonnement international. C'est les deux missions principales de Pro Helvetia. Et puis peut-être je répondis juste sur ce que disait Claudine, parce que bel et bien, ce n'est pas vain. J'ai la chance de diriger un festival de littérature multilingue, et moi je me base principalement sur les auteurs et autrices côté alémanique et tessinois, que je ne connais, je n'ai pas cette expérience-là, sur ce qui est publié en revue. Donc ça sert à quelque chose.
D'ailleurs, oui, tu parlais de festivals. Il y a beaucoup de lieux de rencontres ou quand même qui donnent une visibilité aux revues, au monde de l'édition, de la petite édition de poésie, mais aux revues en particulier. Je pense à Morges. Je pense ébloui au paysage qu'on voit de Morges avec le Mont Blanc qui vous toise et qui vous appelle. Est-ce que, par exemple, Morges fait un accueil décent, formidable? Est-ce que vous avez l'occasion d'y parler, d'y échanger?
Il y a Soleur aussi. Oui.
Vas-y.
Ah non, moi, sur Morges, je n'ai rien à dire.
Ah bon?
Non, sur parce Soleur que c'est un festival, Morges, qui est un festival d'auteurs. Donc les gens viennent signer leurs livres. Alors, les revues sont accueillies, mais c'est le public qui vient et la structure même du festival fait que ce n'est pas vraiment le lieu pour les revues.
D'accord.
On y est, et c'est bien qu'on pense à nous y inviter, mais on y est en trétillé, je dirais. Soleur, je pense que c'est beaucoup mieux, et ça tu connais bien, toi Claudine, donc tu vas peut-être pouvoir en parler.
Oui,
mais en fait il n'y a pas de festival dédié spécifiquement aux revues, mais c'est vrai qu'on y a une place, à Soleur notamment, qui est un festival trilingue, où on est présent, mais pas... Moi, je ne connais pas de festival spécifiquement dédié à la revue en Suisse.
Il n'y a que la France qui fait un marché, un salon de la revue.
Alors, c'est le moment de dire que le salon de la revue se tiendra en octobre prochain.
Voilà, il faut l'annoncer parce que...
Et qu'il faut le soutenir.
Le soutenir, oui. Mais on ne va pas pleurer sur Entrevue tout de suite.
Non, mais
on dressera notre tombeau dans les revues qui sont là
plus tard.
Non, mais je dirais, alors peut-être pour rebondir aussi, par exemple, pour nous, pour L'Ours Blanc, c'est plus facile parce qu'on est lié à une maison d'édition. C'est-à-dire que quand la maison d'édition va sur place, quel cas au marché de la poésie, on est sur le stand de Héros Limite, bon, qui n'est pas là cette année, donc c'est mauvais exemple, mais on est sur le stand d'une autre maison d'édition qui est Éric Pesty.
Éric Pesty, c'est une très belle maison.
Je pense que pour les revues, quand même, c'est difficile de faire leur place. en principe, vous êtes toujours dans le off. Vous êtes dehors, vous êtes cette année bien à l'ombre, dans un endroit aéré.
Les arbres. Non.
Les années précédentes, dans l'enfer, là, dans la Guyenne.
C'est vraiment grâce à Vincent et Yves qui font des conditions tout à fait particulières pour les revues. Parce que, évidemment, les revues ne pourraient pas se payer
un
mètre carré de stand. Donc, c'est pour ça qu'on leur est reconnaissant et que nous les aimons.
Nous avons une autre économie en tant que revue, c'est clair.
Oui, c'est vrai.
Bien sûr. Oui, mais c'est vrai que la structure de financement, mais je ne sais pas si c'est un vrai financement des revues suisses, nous, en France, ça nous bluffe. Quand on voit ça, on n'arrive même pas à avoir, je pense à des très belles revues qui n'arrivent même pas à avoir, je ne sais pas, 1500 euros pour simplement exister, au moins s'imprimer. Vous, quand je vois parfois, alors je ne dis pas que les montants sont considérables, mais le nombre de soutien que vous avez, et je me demandais, c'est pour ça, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de politique de la langue, quand même, en Suisse, que nous avons perdu, d'une certaine manière, ou que nous n'aurons plus ?
Mais moi, je dirais, vice-versa, c'est une revue qui est soutenue, en effet, par Pro Helvetia, mais c'est quand même un système qui est extrêmement fragile, qui est une lutte qui est toujours à recommencer. Nous, on est en fait les trois rédactrices de Vice Versa sont salariées, les auteurs sont payés, les traducteurs sont payés. Mais c'est un combat qui est toujours à recommencer et il y a une personne qui est engagée en fait pour faire ce travail. Ce qui paraît quand même d'une certaine façon absurde que dans une année, en fait, c'est l'équivalent du travail d'une rédactrice qui est consacrée aux demandes de subventions avec. On ne sait jamais, elles arrivent tard, on ne sait pas si elles vont arriver ou pas. Enfin, oui, c'est là, mais c'est un combat constant.
C'est pareil pour vos revues, j'imagine, pour toi.
Oui, c'est devenu effectivement un combat. Effectivement, c'est une activité de plus en plus chronophage. Alors, on a effectivement beaucoup de soutien possible. Disons, parfois, il y a beaucoup de noms, mais ça ne veut pas forcément dire qu'au final, on aura un soutien, parce que des fois, les réponses mettent du temps à venir. Les conditions, parfois, changent. Et puis, c'est un peu, il y a toute une myriade de soutien, mais avec des conditions qui sont chaque fois différentes. Et il y a des politiques du livre, il y a des politiques de la lecture au niveau des villes, au niveau des cantons et au niveau fédéral, avec une subsidiarité au niveau fédéral. Donc, c'est toujours un enjeu. Et un combat. Et puis, effectivement, les subventionneurs payent la fabrication, les traducteurs, mais le travail de revuiste, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des soutiens pour cela.
Parce que pendant un temps, mais c'est un temps que les moins de... Je ne sais pas, peuvent pas connaître. Je me souviens justement de la revue Voix, qui venait au salon de la revue et à d'autres salons, et ils arrivaient, mais véritablement, avec les bifetons. Ça faisait un drôle d'effet, c'est-à-dire que effectivement, il naît avec de l'argent liquide offert, j'imagine, par Pro Helvetia. J'imagine que les choses ont bien changé sur le protocole pour demander des subventions, puisqu'on sait que maintenant, il s'agit, c'est comme un jeu où il s'agirait de toujours échouer. C'est fini ce temps-là, vous venez pas, vous n'avez pas de billets dans vos poches. Zut.
Non, la valise de billets, on n'a jamais connu ça, en tout cas.
Ouais. Non, jamais.
Mais on ne le saura pas.
Je voulais revenir à Mathieu, parce que j'ai découvert donc l'épître en préparant cette rencontre, et je me demandais, j'ai essayé d'estimer, qu'est-ce que veut défendre l'épître, en dehors de voix nouvelle, j'entends bien. Est-ce qu'il y a une tonalité des textes que vous publiez ? Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, par exemple, c'est à quel point beaucoup de ces auteurs, je ne sais pas d'où ils viennent, parce que précisément, c'est moins leur lieu de géographie que leur imaginaire dont il est question, c'est qu'il y avait le goût de l'inscription dans le réel, du quotidien, la trivialité, on parle, je ne sais pas, de hamburger, de pizza, de capote, etc., et avec quelque chose qui à chaque fois déraille ou inquiète. Derrière, dans des écritures qui sont plutôt, on va dire, classiques, il y a beaucoup moins d'expérimentation que dans L'Ours Blanc, par exemple. Donc, il y a une modernité tempérée, j'allais dire.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a une diversité des textes qui est assez extraordinaire dans l'épître. Chaque numéro publie entre 12 et 15 textes. Et j'aurais bien du mal à poser un titre à chaque numéro, tant les thèmes, les esthétiques, les formes varient. Là encore, une des particularités de l'épître, c'est plutôt de se focaliser sur les auteurs et les autrices. Pour répondre à la question précédente, nous, on rémunère aussi les auteurs et les autrices systématiquement. L'équipe est aussi payée, défrayée, ou plus exactement. En l'occurrence,
on les déteste, les Suisses, en fait.
Pardon ?
Non.
Je plaisante, je disais, on détestait les Suisses.
Ah, ouais. L'idée, c'est que, en fait, ces auteurs et ces autrices, on n'annonce pas des thèmes avant l'appel à texte. Les auteurs et les autrices sont libres de proposer absolument ce qu'ils et elles veulent. Donc en fait, c'est simplement le témoignage peut-être de notre génération, ces descriptifs que tu as portés sur les textes. Dans une certaine mesure, nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de combattre la subjectivité en multipliant les regards sur les textes. Chaque texte dans un numéro est sélectionné par 10 personnes. Le comité de lecture de 10 personnes lit tous les textes et valide tous les textes qui sont publiés au final.
Et donc, vous en recevez combien, en fait ?
Alors, par numéro, entre 300 et 500. Et donc, évidemment, ça fait un très gros travail. Et là aussi, justement, on combat cette subjectivité en multipliant les regards sur les textes.
Alors, moi, peut-être qu'on approche du fin de... De la fin de la discussion, mais j'aimerais qu'on revienne à l'objet, parce qu'on a parlé du contenu beaucoup, on a parlé des réseaux et de diffusion et des financements, mais on n'a pas parlé de la fabrique. Et tout à l'heure en présentation, Hervé, tu parlais du format, de la façon dont c'est conçu. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, le choix du caractère, le choix du papier? Enfin, c'est important aussi, je pense que tout ça, tu l'as pensé.
Alors, c'est paradoxal parce qu'on fait un objet donc qui coûte rien. Ça coûte, les nouveaux numéros coûtent 6 euros, les précédents ont coûté 5. C'est un agrafé, mais c'était aussi dans le projet de départ, ça. Et on travaille avec une graphiste qui est la graphiste des éditions Hérolimite, qui est Gaïa Biaggi, et qui considère la revue un peu comme son laboratoire. Donc elle teste des choses dans la revue qu'elle applique parfois après dans ses livres. Et pour nous, il était important... Si nous faisions une revue papier, qu'il y ait de bonnes raisons pour le faire, c'est-à-dire que ce soit un objet, livre, qui ait sa cohérence et qui ait son esthétique aussi. Et Gaïa est quelqu'un qui ne parle jamais des textes qu'elle reçoit, donc je ne sais pas quelle lecture elle en fait, je la prends en voyant la maquette. Et pour revenir un instant au salaire, personne n'est payé chez nous, donc tout le monde est bénévole, on est pire que toutes les autres revues. Toute l'équipe n'est pas payée. Les traducteurs, quand c'est des traducteurs maison, ne sont pas payés non plus. Et les auteurs non plus. Mais la graphiste, oui. Et pour le dernier numéro, c'est-à-dire pour les poèmes d'Anna Jouy, qui est une poésie qui n'est pas si expérimentale que ça, pour une fois, on a décidé de montrer, d'éditer une poétesse différente. J'avais, moi, des doutes sur certains passages très fortement lyriques de ses poèmes. Et Gaïa a fait la maquette du texte. Et quand elle m'a envoyé la maquette, j'ai lu le texte différemment. Et je lui ai dit, mais effectivement, ce texte est magnifique et je le découvre à travers ton travail. Et donc, c'est important, je crois,
un dialogue.
Aujourd'hui, si on fait encore des livres papier, des revues papier... de travailler la dimension qui est la dimension du graphisme. Et chaque numéro de L'Ours Blanc, bien qu'il y ait un protocole général qui est immuable, est mis en page de manière différente, avec une typo différente, avec une intervention
graphique. Avec le dessin.
Avec une œuvre absolument admirable d'Éric Dussert en quatrième de couverture, ici.
Il est salué. Voilà. Non, mais c'est vrai. Il y a, je crois... Alors, les gens qui reçoivent les ours blancs viennent toujours les abonner en disant « On est tellement contents, on a reçu dans notre enveloppe vos nouveaux ours blancs. » Claudine, t'es d'accord, mais hier, il y a une dame qui est passée sur le stand et puis c'est pareil, il y avait ce plaisir-là. Voilà, mais
en fait,
l'heure tourne.
Ah oui.
Ils sont tous différents, mais avec... Ils sont tous différents, mais avec une cohérence. avec une cohérence, quand même un esprit de famille, je dirais.
Mathieu, sur la sur la question de Marie, tu souhaites dire quelque chose sur la fabrique.
En tant que spécialiste de la typographie,
c'est vrai
que
Hervé, tu disais dans un entretien, dans la revue des revues d'ailleurs, à quel point la forme, je veux dire, conditionnait pas le contenu, mais enfin, elle disait déjà quelque chose du contenu.
Non, sur cette fabrication, effectivement, nous, on répond à un modèle graphique assez standard. Hein, c'est pas là que se joue notre expérimentation.
Parlais du numérique.
Éventuellement, le numérique, c'est vrai. Par contre, peut-être, je reprécise quelque chose encore, c'est que les subventions tant espérées de tout le monde représentent moins de 10% de notre budget. Nous, en fait, 60-70% de notre budget, c'est clairement les interventions dans les écoles. C'est une prestation qu'on vend, qu'on survend un peu, qui est plus cher que ce qui est réellement. Et en fait, c'est ça qui nous permet de financer le reste.
Et pour la RBL, il y a aussi une présence du dessin.
Richement, là, ce numéro-là est particulièrement riche.
Des questions de reproduction aussi, ouais. Et de l'objet.
Oui, alors dans la plupart des numéros, alors en plus spécifiquement dans celui-ci, puisqu'on a consacré un dossier à des poètes qui sont eux-mêmes plasticiens ou photographes. Voilà, par exemple, ça, c'est les reproductions de peintures de Jean-Pierre Burgard. C'est toujours aussi...
Qui est écrivain,
tout à fait. Qui est écrivain et peintre. Alors, c'est toujours un défi, quand même, de publier des illustrations. Parfois, on change de papier, même le plus souvent, on change de papier, tout en évitant de faire scolairement un cahier central. Donc, on essaye de répartir les illustrations... dans le numéro, parfois en fin de cahier de 16, parfois on peut intercaler une illustration. Là, dans ce numéro, comme il y en a beaucoup, et puis qu'elles sont liées, elles sont même... elles ont été composées, en fait, avec les textes. Donc on les a mis à la suite, sans changer de papier, en prenant ce risque-là. C'est toujours un enjeu. Parfois, on demande des épreuves, elles arrivent un peu tardivement. Parfois, en tout cas, en termes de fabrication, je tiens toujours à aller chez l'imprimeur signer ce que j'appelle un bon à tirer machine pour la couverture. On valide vraiment ensemble le pantone de la couverture qui change chaque année. Sinon, comme on a évoqué, la couverture ne change guère, en tout cas le layout. Et puis, on essaie de mettre le plus de soin possible dans la reproduction des œuvres. En 2021, on a fait un numéro spécial qui s'appelle Enfantine, qui est complètement illustré, et on a même fait une jaquette. Et là, on avait effectivement choisi un papier couché pour tout le numéro. Mais c'est vraiment une composante. Ce dialogue est vraiment important avec les illustrations. Dans la revue de Belles Lettres, et ça, c'est quelque chose qui on suit une forme de tradition aussi, hein, qui remonte aux années 60, aussi au temps où il y avait des numéros de luxe, hein, des éditions de tête avec des œuvres originales qui se trouvaient en fait en dernière page dans le troisième de couverture. Alors ça, c'est des choses que malheureusement, on ne fait plus. C'est plutôt réservé aux bibliophiles. Et voilà, il y en a toujours, mais c'est vrai que le coût de fabrication et les contraintes sont quand même très grandes.
Alors, il était prévu une petite séance de lecture. Donc là, il faudrait que ce soit des lectures extrêmement brèves, puisqu'il nous reste en gros 5 minutes. Donc, qui se jette et massacre un texte? Vas-y, Hervé et Anne-Jouy, donc.
Alors, est-ce qu'en attendant, je peux savoir s'il y a des questions dans la salle? Non, mais c'est juste pour savoir s'il y avait des questions. Pas forcément, je vous laisse réfléchir. Hervé, à toi.
Donc, ce texte est extrait du livre d'Anne-Jouy, Ressort, que nous publions ce printemps. Remettre ce champ d'inquiétude à son propriétaire, lui rendre le sol, les racines dont est fait cet osier de cage et de panier. Le remettre de main à main, de langue à langue, de la moiteur entre les peaux, jusqu'à ses moussons sonores flirtant dans les cheveux. remettre cet étrange, ce malvenu et dire « Reprends ce qui est tien, ce qui est ton ouvrage. Il faut défaire le méfait. La vie cassée, fracture modale, erreur bourrelée, cousue sur la peau, cale, mort, dure. »
Claudine.
Alors moi, c'est... On m'entend toujours pas si.
Alors, il faut un micro peut-être pour Claude.
Voilà. C'est un extrait d'une poète ukrainienne, Tania Malerchuk, qu'on a publié il y a 2 ans, mais un texte toujours d'actualité. Je vous lis un extrait. Les bossus sont-ils voûtés? Les aveugles plissent-ils les yeux? Les amoureux tombent-ils amoureux? Les mères donneraient-elles naissance à leur mère si elles avaient le choix? Peut-on arrêter la guerre par la guerre? Ramasser le miel à la place des abeilles, passer d'une fleur à l'autre, pénétrer dans leur cœur là où le pollen est le plus savoureux et planter profondément le dard dans le pied d'un passant déchaussé qui marche involontairement sur une abeille, pas pour venger sa mort, mais pour lui apprendre à être plus attentif. Peut-on dresser une tour de livres comme celle de Babel, mais plus haute encore pour atteindre le ciel et dire enfin à Dieu « Merci d'avoir mélangé nos langues » nous rendant étrangers les uns aux autres.
C'est un texte de Ella Sturzenhofer, qui est diplômée de l'Institut littéraire de Bienne et qui actuellement poursuit un master à l'UQAM à Montréal. Au téléjournal de 20h, il y a les foyers éventrés, les rues inondées et les arbres pliés en deux par Irma, Sandy ou Katrina. L'Organisation météorologique mondiale dit que le fait de baptiser les phénomènes permet de mieux alerter la population. Chez nous, aucune dénomination, juste une lente décomposition de l'intérieur, une mousse verte qui ronge le matelas, des excuses ramassées dans le siphon et une porte qui claque pour la dernière fois. Au réveil, je regarde les poutres moisies s'effriter sur les draps en coton bleu et blanc.
Et enfin, David.
Alors, je vous propose une lecture d'un auteur tessinois qui s'appelle Giovanni Orelli. Et il a été écrit en plus dans un dialecte tessinois. Vous verrez, c'est très fleuri. Ça permettra de rendre hommage au traducteur qui est Christian Virda. Dis-moi un peu, crapule, crétin, pignouf, cochon de lait, fils de pute, pisse en route, le lundi toujours rond comme un boulon, vol, talon, plante, dette, morve, au nez fainéant. Blanc bec qui paiera toujours demain, évite pioche. Sale comme un porc, ruffian, ramoneur pissoli qui pour un quart de franc irait vendre à la foire même sa maman. En couble, faux comme Judas, double zéro, trou sans fond qui se goinfre à la table des autres qui se moque des rousses, des noiraudes et des blondes, qui trahit saint et sien et provoque en meneur. Pour 30 sous, plus personne n'est prompt. Reine d'Écosse, 6 de trèfle, dis-moi un peu.
Eh bien voilà. Notre échange.
Ah, il y a Yannick qui veut dire quelque chose. Ah, parle devant. Il faut que tu parles devant le micro.
Oui. Donc je vais terminer par 4 vers de Claudine. Dans tout ce qu'on regarde, il y a trop de surface, trop de volume. On voudrait tout mettre à plat. Alors je ne crois pas qu'on ait tout mis à plat. J'espère que non. J'espère qu'on a conservé les surfaces, les volumes, qu'on donnera envie d'aller voir vos revues qui sont représentées sur beaucoup de stands, sauf une revue.
Non, on est accueillis par La Veilleuse et par la librairie de Chane.
Voilà, la revue de Belles-Lettres sur le stand d'entrevue en 701, 702.
Éric Pesty, 523.
Voilà, et vice-versa qui va rejoindre momentanément le stand... d'entrevue. Donc, merci à tous. Et si vous souhaitez continuer ce dialogue, bienvenue.
Donc, bien entendu, André, on va commencer à réfléchir à ta table ronde de l'année prochaine.